des mots.
Yvan Amar,
Sophie Mallet.
Bonjour, l'arlépem vous louchebem. Si je m'adresse à vous de cette façon un petit peu énigmatique, c'est simplement que je lis le titre d'un ouvrage qui est paru récemment, qui, je le répète, s'intitule l'arlépem vous louchebem et qui est signé David Alliot et sous-titré l'argot débouché. En effet, l'arlépem vous louchebem, c'est une façon d'utiliser l'argot, le jargon, disons la parlure peut-être, et un peu ancienne, débouché, pour dire parlez-vous louchebem. Qu'est-ce que le louchebem? Qu'est-ce que la façon de parler débouché? Eh bien, on va en savoir plus en compagnie de l'auteur David Alliot et en compagnie d'un locuteur natif de louchebem que nous avons l'honneur ici d'accueillir et qui est Bernard Bissonnet.
C'est le tango débouché de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne.
Bison Ravi, c'est lui qu'on écoutait. Vous savez peut-être que Bison Ravi était l'anagramme de Boris Vian, dont on fête aujourd'hui les 50 ans de la mort, et qui avait consacré une belle chanson à ce tango débouché qui nous permet justement d'aborder le sujet. L'arlépem vous louchebem, l'aurais-je assez répété, c'est donc le nom de votre livre David Alliot, puisque vous vous êtes intéressé d'un côté à l'argot débouché qui est ancien et qui est un jargon de métier comme il en existe à peu près dans tous les métiers, et puis aussi à une certaine façon de déranger les mots, on peut dire, qui constituait un argot, un code qui était à la fois ludique, hein, pour s'amuser, identitaire pour se reconnaître entre soi, et cryptique, disons, c'est-à-dire pour ne pas être compris des autres. Alors, d'abord, l'argot débouché. Il y a un argot qui remonte au Moyen-Âge?
Il remonte au métier de la viande, qui sont des métiers ancestraux, qui remontent à l'Égypte antique, même au-delà. Et donc, l'argot est destiné à se faire comprendre entre professionnels. Donc, on dit un morceau, une cuisse, etc. Donc, il y a des termes très précis pour définir la viande, la découpe, ou des choses comme ça. Donc,
oui,
ça,
c'est... qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, morceaux et cuisses que tout le monde connaît, mais qui peuvent être autre chose. Et là, je m'adresse à vous, mais aussi à Bernard Bissonnet. Vous avez conscience, vous, dans votre métier, puisque vous êtes boucher, de père en fils depuis, enfin je crois qu'il y a pas mal de quartiers de noblesse, et quand je dis quartiers de noblesse, c'est parce que justement, les quartiers, c'est un peu votre métier. Vous utilisez souvent des mots dont vous avez conscience que ce sont des mots techniques?
Tout à fait. Alors le lycée de louchebem que je suis peut vous répondre.
Le lycée de louchebem, c'est le fils de boucher, c'est ça?
Bravo, vous voyez.
Oui, je m'y mets. Hein.
Bravo, bravo.
J'ai répété
Première leçon. Vous devez être un très bon élève. On va continuer.
Je suis appliqué.
Peut-être.
Un peu limité, mais appliqué.
On voit que vous avez révisé et que vous avez lu le bouquin de notre ami.
Ah oui, je l'ai lu. Ça,
le Louquin B. Le Louquin B de notre ami David. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Alors, revenons à ce jargon, justement, pour désigner des morceaux de viande. Quand vous dites un baron, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, un baron.
Par exemple,
je rebondis sur le larombème. Alors, le larombème.
Larombème, baron en louchebem.
En louchebem.
Oui.
Langue absolument, complètement et totalement pratiquée de nos jours, au jour le jour, par l'ensemble d'une profession. Quelle qu'elle soit, c'est-à-dire aussi bien les petits louchebem de l'artier-caisse, les petits bouchers de quartier, que les mandataires des halles, les forts des halles. Tout le monde pratique quotidiennement, nous parlons entre nous, nous vivons entre nous, nous achetons la viande, nous découpons la viande et nous le faisons en parlant louchebem. C'est naturel. C'est absolument naturel. Donc le baron d'agneau, c'est une partie de l'animal qui représente la culotte d'agneau. Ça s'appelle comme ça, la culotte d'agneau, c'est-à-dire la lulotte caisse, la culotte. On peut l'employer pour autre chose, c'est aussi si vous voulez. Il y a toujours un petit côté canaille qui ressurgit. Et la culotte, ce sont les deux gigots réunis avec la selle d'agneau. Voilà, ça c'est, le, laron, ça, c'est le larron bême d'agneau.
Ah, c'est les,
la lulot de caisse et la lèle soc.
Ça commence à rentrer. Alors, j'ai lu aussi dans votre livre, David Alliot, qu'il y avait un certain nombre d'avantages qui étaient réservés bon, à des, soit à des commis bouchers, soit, soit aux seigneurs, c'est-à-dire soit à ceux qui tuaient la bête, etc. Est-ce que ce sont des traditions qui existent encore, ça ?
Tout à fait. En ce qui concerne, vous parlez des seigneurs, par exemple. Les seigneurs...
Les seigneurs, SAI.
Il y a une certaine tradition et ils se mettent de côté certains morceaux. Si ça n'est pas fait à l'abattoir, c'est fait par le coupeur, le looper caisse de Luyendvem, hein, qui se mettra de côté un petit lorsomique de Luyendvem en fonction des commandes qu'il peut avoir.
Alors on c'est vrai que ça... les clients très souvent parlent des morceaux du boucher, mais sans aller plus loin. Alors en lisant votre livre, j'ai vu par exemple qu'on parlait du pélican. C'est vieux ou ça existe encore ça, le pélican ? Il y a peut-être des mots qui ont vieilli et qui ne sont plus utilisés aujourd'hui dans la corporation.
Personnellement, je ne l'utilise pas, moi, régulièrement, mais le lorsomique du louchébème, c'est quelque chose qu'on vient nous demander très 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 régulièrement. Alors le petit lorsomique du louchébème, c'est quoi ? Il y a plusieurs versions. Mais principalement, le lorsomique du louchébème, ce sont les morceaux de viande longue. Les viandes longues, c'est-à-dire la bavette, la hampe ou l'onglet. Ça, c'est basiquement le lorsomique du louchébème.
L'araignée, ça n'en fait pas
l'araignée,
partie.
L'araignée, si.
C'est limite.
Mais si, vous avez raison.
C'est bimitlem.
C'est encore plus rare.
J'invente là. Hein.
Bimitlem. Non, mais on a l'ompricaisse. Il est lombème, le lorsomique. Hein. Il est lombème.
Le lorsomique du louchébem et tout ce qui s'en suivait, on a eu quand même une bonne mise en appétit de ce que c'est que le louchébem. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse une petite leçon, sinon de grammaire, du moins de morphologie. Est-ce que vous pourriez, David Alliot, puisque vous avez consacré un livre à ce sujet, nous dire un petit peu quel est le principe de la manipulation ? Parce que le louchébem, c'est de la manipulation, syllabique et consonantique, hein, avec les syllabes et les consonnes.
Non, tout à fait. En fait, c'est très simple. Vous prenez un mot, on va dire par exemple le patron. Donc, vous enlevez la première lettre, le P. Vous le mettez
La première consonne.
Première consonne.
Parce que si c'est une voyelle, je crois que c'est un peu différent.
En fait, il n'y a pas vraiment de règle. On fait un peu. C'est à l'oreille que ça marche. Donc, vous enlevez la première lettre, la première consonne, et vous la mettez à la fin. Mm-hmm. Donc, et vous remplacez la première consonne par la lettre L. Et donc, patron devient latron.
Oui. Le P. On rajoute le P, ça fait la trompe.
Et après, vous mettez un suffixe M, U, et en fait c'est strictement sonore, parce que dans certains cas il peut y avoir des variantes pour un seul mot, il peut y avoir deux ou trois variantes.
Ça peut être la trompème, la trompuche, la trompinette, la trompote.
Voilà, je vais vous donner un cas très précis. Mes parents, pour dire que c'est cher, mon père dit c'est l'herchem, ma mère dit c'est l'herchoc. Donc vous voyez, au sein d'une même famille, ils ne parlent pas de la même façon le louchébème, mais dans les deux cas ils se comprennent.
Oui, et c'est pas une certaine façon de féminiser le louchébème. Il n'y a pas des suffixations qui vont aux femmes comme d'autres iraient aux hommes.
Non, non, c'est strictement sonore. En fait, il faut que ça sonne bien. Il y a des certains mots qui passent très mal parce que on sent que c'est pas naturel. Mais à l'inverse, à la viande, liande vème, les deux sont valables.
Il faut que ça sonne et il faut qu'on prenne l'habitude. Tout et cette fait. Habitude, on l'a prise à un tel point qu'il y a un certain nombre de mots du louchébem qui sont entrés, je dirais pas dans le langage courant, mais dans l'argot courant. C'est-à-dire qui ont intégré l'argot courant.
Oui, certains thèmes sont connus comme loucédé,
louchédé. Loucédé, voilà, qui veut dire
rapidement, en douceur.
Et puis en douce, sans qu'on vous voie.
Tout à fait. Mais même le mot louchébem est très connu. Enfin, c'est un argot
assez connu.
Assez connu dans le. C'est un argot très prestigieux, très mythique, très peu parlé parce que c'est vraiment un argot d'une corporation, mais très très connu dans le monde d'argotologie.
Quoi. Oui. Et il y a des mots tellement courants qu'on a totalement oublié, ou même ne l'a-t-on jamais su pour la plupart des locuteurs, qui venaient du louchébem.
Oui, bien sûr.
Je pense à loufoque.
Oui, loufoque, oui.
Alors ça vient d'où loufoque? Faites-nous la manipulation, mais à l'envers, redonnez-lui sa forme primitive.
C'est un fou, quoi. C'est phoque, lettre F, on remet au devant.
On enlève la première consonne, ça fait
louf.
On met un L au début, ça fait louf. Et on trouve une suffixation, ça fait loufique, loufoque, loufcé.
Ça a donné aussi loufia. Un terme d'argot, de la pègre, donc un fou, enfin, au sens crapule.
Loufia, souvent, qui veut dire aussi un valet, il me semble. Hein.
Oui, aussi, l'argot de la pègre, un loufia, c'est un type de pas fiable.
Je ne savais pas ça.
C'est un type, on lui confie une mission, mais on se demande s'il va ramener l'argent ou s'il va pas en garder.
S'il va le garder pour lui et qu'on ne reverra jamais.
Voilà, c'est ça.
Et le larfeuille, alors?
Larfeuille, c'est le portefeuille.
Ouais.
Alors ça, c'est des origines très lointaines. On serait qu'on perd un petit peu, on commence à perdre un peu de parce que ça devait être un parler provincial. Mais le larfeuille, oui, c'est le portefeuille.
Mmh. Et vous, alors, Bernard Bissonnet, c'est donc une langue que vous employez encore assez couramment?
Tous les jours.
Sans coquetterie, j'allais dire.
Non, pas du tout.
C'est votre langue quotidienne, en famille et au travail.
Exactement. Même en famille, j'ai deux enfants, ils parlent tous les deux l'argomuche des louchébem couramment. Malifé, mon lisfé. Malifé, il va avoir 29 ans et mon lisfé, il va en avoir 25.
Et votre lisfé et votre lifé, ils vont reprendre l'entreprise, la filiale MEF. Oula, ça c'est dur.
C'est dur là, hein. C'est l'urdoc l'AD. Hein.
Ouais, ça c'est un peu. C'est du vocabulaire de deuxième année, quand vous reviendrez.
Attention, pas tout du premier coup. Hein. Oui, mon lisfé travaille depuis peu, mais il travaille à mes côtés. Tout à fait.
Et est-ce que pour vous, de façon tout à fait spontanée, quand vous parlez à des gens qui ne font pas partie de la corporation des bouchers, il y a une censure qui se fait? C'est-à-dire, est-ce que vous ouvrez, d'une certaine façon, la fenêtre du louchébem quand vous êtes avec des gens qui l'entendent et qui vous répondent, et que tout d'un coup, il y a, je ne dirais pas une censure, mais vous passez un autre code?
Mais les gens sont très demandeurs, en fait. Je peux vous dire que le petit cours que notre ami David vient de donner, je le donne régulièrement. Parce que c'est malgré moi que j'emploie certains mots d'argot. Et tout de suite, on sent un intérêt, on sent une curiosité, et on explique aux gens, voilà, et ce qui peut se passer. On arrive des fois dans des situations un petit peu cocasses, d'ailleurs.
Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, le louchébem servait, pour les bouchers entre eux, à communiquer dans la boucherie même. Mmh. C'est-à-dire que vous aviez le client qui était là, et en gros, c'était pour refiler un mauvais morceau à ce qu'on l'a. Ou alors, au contraire, une bonne cliente, dit c'est une bonne cliente, tu la soignes. Mais on le disait en louchébem. Et c'est vrai que
c'était un code pour que le client ne comprenne pas.
Absolument. Donc à l'origine, ça avait quand même
C'est le problème de tous les argots. Enfin, le problème, c'est la fonction de tous les argots.
C'est le cryptage.
L'argot de la pègre, au départ, était destiné à ce que ce qu'il parlait ne soit pas compris de la police.
Absolument. Et donc là, effectivement, on a quitté un peu ce domaine-là parce qu'effectivement, les louchébèmes évitent de parler. On va dire en public, le louchébème, ils parlent entre eux, mais est-ce que les gens, ils se disent, on se moque un peu de moi, etc. D'ailleurs, M. Bissonnet pourra peut-être nous faire part d'une expérience qu'il nous a racontée la semaine dernière. Mais c'est vrai que maintenant, on est plus dans le domaine culturel. Et les gens voient parler naturellement un langage très ésotérique et très étrange, puis très joli aussi par certains aspects. Maintenant, les gens sont plus demandeurs, effectivement, de culture.
Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette anecdote, Bernard Bissonnet?
Parce que, bien, figurez-vous qu'il y a, il y a quelques années, en vacances...
Quand je dis saliver, je parlais à un boucher, quand même.
Il y a quelques années, en vacances, je me trouve, comme tout un chacun, à aller faire les courses de la famille. Je vais dans une boucherie, j'attends mon tour, et là, à ce moment-là, je demande, en français dans le texte, 4 beaux pavés de rhum steak. Et là, le boucher se retourne vers le second et lui dit... L'aspoipem, l'orsomique qui lui pème dans le loinqué.
Ce qui veut
clair
dire.
Dans le texte, ça veut dire passe-moi le morceau qui sent un petit peu, là, qu'il faut passer, qu'il faut vendre avant qu'il ne soit trop tard. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre, mais sur le même ton et dans le même langage, ton l'orsomique qui lui pème un lepé dans le loinqué, tu peux te le lettre messe au Lucas.
Et ça a fait mouche. Ça a fait louchemé tout de suite
parce que là,
il est devenu
le boucher, il est devenu de la couleur du morceau qu'il voulait me refiler.
La moisirique.
Qui, en effet, était à la CPM, mais à la Loubelle PM, de toute façon, et en aucun cas, il ne fallait pas celui-là, le Langemès.
Bernard Bissonnet, d'après ce que vous nous dites, vous n'avez pas tellement l'impression que le louchébem est donc un langage en perte de vitesse. Parce que souvent, ces jargons anciens, même s'ils sont liés à des corporations, on sait bien qu'avec, par exemple, le déploiement des médias, c'est un peu comme les accents régionaux, ils ont tendance à se réduire. Le louchébem, pas trop, un peu, qu'est-ce que vous en pensez?
Pas du tout. Le louchébem est toujours vivant et d'actualité. Certes, il y a de moins en moins de louchébem, mais ceux qui restent sont toujours très très friand de louchébem, de l'arlépem, le louchébem, un lepé.
Oui, mais comme vous le dites, il y en a moins. Et si vous allez, par exemple, dans une grande boucherie industrielle ou bien au département boucherie d'un supermarché, bah, j'imagine qu'il y a...
Alors là, justement, on va faire, c'est très bien, on va rebondir tout de suite sur ce que vous êtes en train de dire. Si on va dans un supermarché, on va tomber sur des vendeurs de viande, mais on ne va pas tomber sur des vrais louchébem. Donc là, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas l'arlépem, le louchébem.
Et pourtant, il y a un savoir-faire. Même chez des gens qui travaillent dans un supermarché, ils savent quand même couper la viande. Ils font pas n'importe quoi.
Tout à fait, ils l'ont appris, ne serait-ce que par la force de l'habitude, mais ils n'ont pas forcément eu cet apprentissage que nous avons eu tous dès nos 12 ans, 13 ans, c'est date à laquelle on a commencé à apprendre notre métier, et c'est là où on a commencé à apprendre nos premiers mots de louchébem.
Parce que la boucherie, ça s'apprend quand même chez un patron plus que dans une école.
Beaucoup plus. Ça, c'est certain qu'à l'école de la boucherie Boulevard Soult, je ne suis pas sûr que ça soit le langage officiel de l'école de la boucherie, mais ce dont je suis certain, c'est que tous les apprentis bouchers, entre eux, le parlent. Ça, c'est garanti, sûr. Dommage qu'il n'y ait pas une option facultative.
Ah, il y en a peut-être une. Enfin, on va leur suggérer.
Pouvoir leur suggérer. Vous avez raison.
C'est vrai que globalement, la transmission de la mémoire, c'est toujours très important dans tous les jargons. Tous les métiers sont bouleversés par l'informatique ou par l'arrivée des grandes surfaces dans le domaine de la boucherie. C'est vrai que les bouchers qui étaient, on va dire, très présents dans le paysage de tous les Français, dans n'importe quel village, il y avait une boucherie. C'est vrai qu'avec l'arrivée des grandes surfaces, ça a quand même bouleversé.
Alors, dans les villages, dans les petites villes et dans les grandes villes, on voit de très nombreuses boucheries qui ont fermé et qui, de temps en temps, comme les devantures sont belles, ont changé de commerce, mais ont gardé l'aspect de la boucherie. Moi, j'en connais pas mal à
Paris. Bah, nous, on connaît notamment la librairie La Boucherie, qui est rue Monge. Où on
la librairie La Boucherie, librairie vous avez une belle expression. Je connais la librairie La Boucherie.
Bah, tout à fait. Lorsque le livre a été conçu, le responsable de la librairie tout de suite a dit, bah, si un endroit vous devez venir signer, c'est chez nous, ce qui est vrai d'ailleurs, la librairie La Boucherie.
Parce que c'est le nom d'une librairie qui est une ancienne boucherie.
Une ancienne boucherie. Ils ont gardé
chez moi, il y a un marchand de téléphone.
Voilà, ils ont gardé, en général, ils gardaient de Venture, qui sont magnifiques, et ils ont gardé le nom, donc c'est un côté amusant.
Et chez ce marchand de téléphone, il y a d'ailleurs une très belle tête de cheval qui signale que c'était naguère une boucherie chevaline.
Ben, c'est vrai que les boucheries chevalines, on parle des boucheries de bœuf, mais boucheries chevalines ont encore plus souffert de la désaffection de la viande.
J'ai moi-même personnellement un oncle boucher chevalin, André Bissonnet, installé place des Vosges, qui a fermé sa boucherie chevaline il y a 35 ans et qui, à la plage des jambons et des saucissons, a accroché des instruments de musique anciens. Il est devenu antiquaire, mais ça s'appelle la boucherie. Et
mais
croyez-moi
qu'avant, il travaillait sur instruments d'époque quand il était encore boucher, peut-être.
C'est possible.
Ouais.
Il était sonneur de trompe de chasse, en tout cas.
Oh bah, déjà,
et
c'est
vous
pas
passez
mal.
Rue du Pas de la Mule, à l'angle de la place des Vosges, et sera heureux de vous en sonner un petit louquet.
De m'en sonner un petit louquet. Alors, justement, en avoir pour une sonnette. C'est une des expressions que j'ai relevées dans votre L'art les pèmes vous louchez même, David Alliot. En avoir pour une sonnette qui veut dire en avoir acheté pour cher, en avoir acheté un gros paquet, un gros morceau. Mm-hmm. Et j'ai remarqué un certain nombre d'expressions qui avaient un rapport avec l'argent justement et qui gardaient même des unités monétaires à l'ancienne. Ça s'est gardé pendant longtemps. Par exemple, les pistoles, vous en parlez.
Oui, les pistoles, ou ne serait-ce que les sous. On dit jamais l'argent, on dit les loussocs. Loussocs, c'est l'ouchébem de
ça sous. Vaut des loussocs. Hein.
Ça vaut des loussocs.
Ça veut dire ça vaut des sous.
Ça vaut des sous. Ou comme mon père disait à ma mère, mets les loussocs dans la l'esquem, mets l'argent dans la caisse.
Ah, mets les loussocs dans la
l'esquem. Les termes sont restés très anciens. Je vous dis pas après, quand il y a eu le passage à l'euro, c'était le drame, quoi. Mais effectivement, c'est...
Oui, mais c'est un drame dont on peut se remettre. Le passage au franc a peut-être été aussi un drame, quand il y avait des livres et des pistoles et des louis.
Livres, pistoles, anciens francs, nouveaux francs, euros maintenant, effectivement. Mais c'est vrai qu'en boucherie, il y a des termes très anciens, très désuets par certains aspects, qui survivent.
Ah oui, les 100 écus. Les 100 écus et les culs là, ça vous dit quelque chose?
Oui, malheureusement, je n'ai pas révisé avant de venir.
Ah, il eût fallu.
Honte à moi.
Ah non, mais c'est pas grave, parce que moi je l'ai lu peut-être plus récemment que vous, et j'ai vu que très souvent, pour une somme de 100 écus, il y avait une espèce de pourboire qui était un écu en plus, mm-hmm. C'est-à-dire 3 francs. Je crois que 100 écus, ça valait 300 francs. Mm-hmm. Et donc, 100 écus et l'écu là, c'était 303 mm-hmm. francs. Et l'écu là, c'est l'écu en plus. Et quand on dit l'écu là, c'est amusant, parce qu'on dirait une morphologie du créole. Quand on met cette espèce de suffixation dont on ne sait pas trop si c'est un article ou bien si c'est un adverbe, l'écu là en plus, c'est vrai que ça évoque une façon très, très souple de parler. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous faire dire aussi? Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans les traditions. La fête du bœuf gras, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore?
Ça n'existe plus maintenant. Il y a un restaurant qui s'appelle encore le bœuf couronné, qui est le dernier, on va dire, avatar, et qui est le dernière trace, on va dire. Mais la fête du bœuf gras, non, ça ne se faisait plus déjà avant la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
Ça n'a pas survécu en 1945, peut-être localement, mais j'avoue que j'ai pas d'informations. Mais on va dire jusqu'aux années 20, c'était encore assez, ça se faisait encore. Mais
qu'est-ce que c'était? C'était une fête.
C'était le plus gros bœuf de Paris. C'était c'était une sorte de, un peu comme on voit dans les concours d'agriculture ou autre, on montrait la plus belle bête. Et c'était avant de le tuer, et on faisait défiler dans Paris. Et avant, sous l'Ancien Régime, on le montrait au roi. Il y avait tout un cérémonial assez important. Alors il était fleuri, d'où le nom. Il était couronné, fleuri, il était apprêté. C'est vraiment la plus belle bête qui était présentée dans Paris.
Et le bœuf couronné, ça viendrait de là? Parce que vous avez cité justement ce nom de ce restaurant où j'ai parfois été mangé fort bien, je dois dire, parce que c'est rare de manger d'aussi bons pavés qu'au bœuf couronné. Faut pas faire de publicité, mais c'est... On va dire que c'est pas un nom de marque, hein.
Voilà. Mais non, mais c'est une tradition.
Donc il est situé où? Dites-le nous.
Le bœuf couronné, enfin le bœuf couronné.
Il est situé dans le Lartiéquième de la Liandevem par excellence, à la Villette.
C'est-à-dire que c'était en face de ce
avenue
qu'on
appelait... Avenue Jean Jaurès, en face les abattoirs de la Villette.
En face des abattoirs.
Puisque jusqu'il y a à peu près 35 ans, 38 ans, les bêtes étaient encore tuées, même dans Paris.
Aux abattoirs de la Villette.
Aux abattoirs de la Villette, tout à fait.
C'est devenu donc un parc où il y a la cité de la Villette, la cité des sciences...
De la musique.
Mais, la cité de la musique...
Mais dans le pourtour, il y a encore une tradition bouchère, une tradition viandeuse.
Ah, on dit une tradition viandeuse.
Il y a encore quelques petits établissements, pas forcément connus, mais ouais, où vous mangerez une entrecôte qui ne fera pas 180 grammes, mais qui en fera plutôt 350.
Oui, c'est vrai, ça se mange facilement.
Ah, c'est bon. Quand c'est bon, on ne compte pas.
Et donc, les abattoirs de Paris ont disparu sensiblement au même moment que les Halles, au moment où les Halles parisiennes sont allées à Rungis.
Complètement, tout à fait. On a fêté les 40 ans de Rungis il y a 15 jours, 3 semaines. Ça correspond à peu près aux mêmes dates.
Oui. Alors, qui travaillait aux abattoirs? Est-ce qu'il y avait des noms particuliers qu'on donnait à ces gens qui abattaient les bêtes, justement? J'imagine que oui.
Alors,
vous parliez des seigneurs tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres mots pour les désigner? Ou même pour désigner leurs outils
Il y avait les tueurs, ceux qui étaient chargés de tuer l'animal. C'était des garçons bouchers, mais souvent ils étaient appelés les tueurs. Et après, il y avait des noms très précis. S'ils faisaient du mouton, du bœuf ou d'autres viandes. Puis, il y a ceux qui récupéraient, il y a ceux qui tuaient, il y a ceux qui récupéraient. Donc il y avait toute une hiérarchie quand même de professions. On va dire que la noblesse du métier, c'était le tueur de bœuf. C'était celui qui, on lui donnait un bœuf, il devait le tuer. Il est passé sa journée.
Ah, le tueur, c'était quelque chose de noble.
Ah, bah oui, c'est l'aristocratie du. Alors après, vous avez le tueur employé, vous avez le patron qui.
Le patron tueur, on disait.
Le chef des tueurs, ouais. Tout à fait, qui dirigeait une compagnie. C'était l'aristocratie du métier. Oui,
et pour dire le tueur, en Louchébem, il y avait un mot.
Le Louchébem, le Lurtem.
Louchébem.
Eh bien voilà qui nous a mis en appétit. Merci encore à David Alliot. Vous venez de faire paraître aux éditions Auray L'art les pèmes vous louchez bème, sous-titré L'argot des bouchers. Et merci également à Bernard Bissonnet, puisque vous présidez avec fierté au sort des boucheries nivernaises, dont j'ai vu d'assez nombreuses succursales un petit peu partout. C'était La danse des mots, une émission proposée par RFI et le Centre national de documentation pédagogique. Sophie Mallet, Najat Daguerre, Yvan Amar.